à bout de souffle. Carlo Severi, Le principe de la chimère, une anthropologie de la mémoire. Rencontre avec Carlo Severi à la librairie Le Livre à Tours. Anthropologue, Carlo Severi est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche au CNRS. Il vient de publier, aux éditions Esthetica, Le principe de la chimère, une anthropologie de la mémoire. Qu'elle s'appuie sur l'ornement, la peinture corporelle, le masque ou le pictogramme, la mémoire des peuples sans écriture a toujours paru labile, désordonnée, vouée à l'échec. Les supports mnémoniques dont parlent les historiens de l'écriture à propos de ces traditions sont régulièrement décrits comme des tentatives avortées de reproduire la forme extérieure d'un objet ou des moyens graphiques simples d'exprimer des concepts élémentaires. Carlo Severi nous présente les résultats d'une vaste enquête anthropologique menée en Amérique indienne et en Océanie. Il analyse nombre de ces dispositifs visuels tout en étudiant les contextes d'énonciation rituelle qu'ils impliquent et démontrent une toute autre hypothèse. Il existe une voie de la représentation chimérique par laquelle s'inventent des arts de la mémoire non occidentaux. Rien d'imitatif dans ces supports mnémoniques, dont la forme mobilise le regard et invite à les décrypter.
Je remercie Carlo Severi d'avoir accepté notre invitation. Il est anthropologue et il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est directeur de recherche également au CNRS. Donc nous l'accueillons pour le principe de la chimère, une anthropologie de la mémoire. Et je dois remercier Carlo Severi pour la lecture que j'ai pu avoir de ce livre. Parce que son ouvrage, au-delà d'être un ouvrage d'anthropologie, il l'est, et il l'est techniquement, c'est un ouvrage de pensée. Parce qu'il donne justement à penser, je veux dire qu'il est à la hauteur de la justesse de la pensée, que la pensée exige. Pour ceci encore qu'il réfléchit tout autant qu'il donne à réfléchir, et que cette réflexion impressionne. Qu'il est aussi un art de la conversation, qu'il converse avec son propre objet d'étude, et qu'il converse avec son lecteur. Qu'il est aussi un art du déchiffrement, à démêler, à éclaircir, qu'il questionne l'image, les objets cultuels, des gestes rituels, des pictogrammes, des logiques narratives, des logiques de transmission, des questions de mémoire, des questions de support de la mémoire. Toutes questions qui valent pour l'anthropologie, mais qui valent aussi pour d'autres champs d'investigation et de pensée.
Peut-être la première manière de définir ce livre, avant d'en commenter le titre, c'est que c'est le livre d'un spécialiste qui a essayé de lever le nez, pour ainsi dire, de ses dossiers et de dessiner un horizon d'une recherche qui durait depuis déjà pas mal de temps. En fait, j'ai commencé ce livre, j'ai mis une dizaine d'années à le faire. J'ai commencé à un moment où vous savez, tout le monde part dans des endroits, enfin les professeurs d'université tels que je suis, d'habitude se disent excédés du travail d'enseignement et aspirent à un endroit comme celui où j'ai été à Los Angeles, au Getty Institute, pour enfin retrouver le calme et écrire le livre de leur vie. En fait, je suis arrivé à Los Angeles que j'avais publié 2 livres. Donc, j'étais un peu embêté avec mes collègues là-bas parce que je n'étais pas là pour enfin finir le livre de ma vie. J'étais là plutôt pour commencer une recherche. J'avais publié 2 monographies et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que d'être anthropologue ? Est-ce qu'on peut établir une sorte d'échange ? avec d'autres spécialistes, des gens qui s'occupent de choses semblables, et surtout restituer une sorte d'horizon de ce que c'est que l'anthropologie. Ça, c'est pour ça. Ça a été la première idée. La première idée. D'autre part, effectivement, je n'étais pas en France, donc ma langue maternelle que je n'utilisais pas depuis longtemps pour écrire, je l'ai utilisée pour écrire ce livre. Et j'ai essayé, effectivement, vous savez, les anthropologues, ça part toujours d'un voyage. Donc, l'itinéraire intellectuel, ça commence par des rencontres, par des voyages. Et il se trouve que mon premier terrain était un terrain consacré à une poésie sacrée. Enfin, ce sont des chants chamaniques d'Amérique centrale, chez des Indiens, les Indiens Kuna de Panama. Et... en fait, pour dire les choses simplement, j'étais allé chez les Kuna pour étudier un long poème, un long chant rituel qui était consacré à la thérapie de ce qu'ils appellent la folie. Et donc, je m'étais intéressé à ce texte, je l'avais traduit. 'Transcrit dans la langue, traduit, et puis à mon grand étonnement, le monsieur avec qui je dialoguais à propos de ce texte, eh ben, il était un grand dessinateur, et petit à petit, il m'a expliqué qu'il mettait dans sa mémoire un texte qui dure quand même toute une nuit, donc entre 8 et 9 heures, ce que j'ai moi, que j'ai transcrit et ce que j'ai étudié. Eh bien, cet homme dessinait en même temps qu'il chantait. Donc, il me montre cette séquence de dessins. Or, j'avais déjà entendu parler d'une sorte de curiosité ethnographique en Sévélie, plusieurs couches de poussière dans nos musées, y compris le musée de l'homme, des pictographies amérindiennes. Alors, c'était une étrange chose à l'époque parce que, comment dire, les historiens de l'écriture étaient toujours très, très méfiants par rapport à ce genre de documents. On ne savait jamais si c'était quelque chose que les Indiens avaient vraiment inventé ou si c'était quelque chose comme une imitation hybride de l'écriture. Ou c'était quelque chose qui était resté comme ça. Vous savez, donc, les histoires de l'écriture commencent en général avec les avant-coureurs. Et les avant-coureurs, on les décrit assez vaguement. On dit qu'en fait, les choses sérieuses commencent quand il y a ce phénomène qu'on appelle phonétisation. On commence à transcrire les sons d'une langue, et à partir de là, on fait de la mémoire sociale pour de bon. En face de moi, j'avais un monsieur qui était capable de réciter des centaines de vers, soutenu par une mémoire faite d'images. Alors du coup, pour dire les choses vraiment simplement, je me suis dit que est-ce que c'était du dessin individuel mnémotechnique ? Est-ce que c'était une véritable écriture ? J'avais découvert une écriture comme un déchiffreur. Ça ne durait pas longtemps. Non, je n'avais pas découvert une écriture. J'avais découvert plutôt une technique d'imaginer des équivalents visuels de certains mots, et certains mots devenaient ainsi des séries de petites images. Donc je découvrais que le chant n'était pas transcrit dans une écriture, mais il était fixé dans une mémoire par une sorte d'exercice raisonné et tout à fait conscient d'une mnémotechnie visuelle. Donc, ce n'était pas une écriture, je n'étais pas le découvreur d'une stèle de Rosetta, pas du tout. D'autre part, est-ce que j'avais affaire à une tradition orale ? Parce que ça, c'est ce que me disaient mes maîtres. Les gens qui n'ont pas une écriture, ils ont des traditions orales. C'est par la parole, n'est-ce pas, qu'on fait une mémoire sociale. Or, j'avais en face de moi quelqu'un qui non seulement ne chantait pas du matin au soir, mais qui m'expliquait par exemple que la parole qu'il prononçait lorsqu'il faisait les chants était une parole de nuit, et que dans la langue on pouvait distinguer entre des paroles qu'on prononce le jour et des paroles qu'on prononce la nuit. Alors je voyais donc se construire face à cette idée de tradition orale des choses beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus restreintes. Hein. Certaines choses se disent à certains moments, d'une certaine manière, et les Kunas exagèrent même, c'est un phénomène général ça, mais les Kunas exagèrent même parce qu'ils ont des variétés linguistiques spéciales. Donc du coup, j'avais donc en face de moi quelqu'un qui la nuit prononçait un long poème absolument vertigineux, très très beau, et en même temps, c'était une parole qui était prononcée dans le noir de sa hutte, face à son patient, qui d'ailleurs ne comprenait absolument rien. Donc voici une tradition orale faite de mots qu'on ne comprend pas et qui sont traités comme si c'était des objets. Et en même temps, ben, ça n'allait pas sans une imagination visuelle. Ça ne se mémorisait pas sans une iconographie orientée par une technique de la mémoire. Donc, à partir de là, quelle a été la réaction de mes amis historiens d'écriture ou anthropologues ou... Ben, le premier réflexe a été de dire « tes Indiens sont vraiment très étranges ». Ça doit être unique, ça doit être très spécial, ça doit être quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, moi, dans ma mythologie, je n'ai jamais vu les Indiens dessinés, etc. Moi, je ne sais pas pourquoi, etc. Donc, en fait, le premier réflexe a été, une fois revenu du terrain, de me dire si mes Indiens Kuna étaient si uniques que ça, et si, en effet, on pouvait imaginer... J'avais en face de moi une espèce de prodige... ou bien si c'était quelque chose qu'on avait tout simplement oublié, ou qu'on n'avait pas vraiment vu. Et là, je me suis rendu compte que, bon, quand on est des spécialistes, on est tout à fait en face des choses, et on a quelque chose à laquelle je ne voudrais jamais renoncer, c'est-à-dire, par exemple, un dialogue très rapproché avec un texte. Ça, c'est quelque chose qui doit rester, que je veux que ça reste, même si je lève le nez, n'est-ce pas? Mais d'autre part, je voyais qu'on apprenait des manières de d'opérer des sections comme ça dans les objets. Vous voyez, le poème, c'était la tradition orale. Les pictogrammes, ben ça c'est de l'art primitif. Vous voyez. Alors, j'allais voir dans les musées des pictogrammes qui étaient pensés comme, alors la définition est du 19e siècle. Elle a été donnée en anglais, mais enfin, c'est des moyens rudimentaires de représenter des idées de base. Rudimentary means to represent basic ideas. Ça, c'était l'idée, comme ça, de la définition donnée. J'avais en face de moi 52 planches dessinées d'un usage complètement systématique qui répondait à une structure spécifique du texte. Donc là, à nouveau, je voyais que les dessins... choisissait dans le texte toujours, par exemple, des noms propres. J'avais des phrases entières qui n'étaient absolument pas transcrites, et puis, tac, certains mots-clés devenaient des images, d'une manière parfaitement régulière. Alors, la première idée, ça a été, est-ce que j'ai donc rencontré le seul homme au monde qui pratique un art de la mémoire dans la forêt tropicale du Panama? J'ai commencé à faire un peu la tradition des études sur ces Indiens. J'ai trouvé toute une série de choses dans un musée de Suède, à Göteborg, une série de documents récoltés en 1927 par un baron suédois qui s'appelait Nordenskjöld, un grand américaniste, qui lui aussi avait rapporté donc toute une série de petits cahiers, comme ça, qui étaient recouverts de dessins, page après page. Donc là, il y en avait des milliers. Cette fois, moi, j'en avais des centaines. Là, il y en avait des milliers. Je commençais à être déjà plus rassuré sur ma rencontre, pour ne pas l'appeler découverte. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que les Indiens d'Amérique ont fait ça de l'Alaska à la Terre du Feu pendant des siècles. Voilà. Sauf que, comme on a pensé que c'était des gens qui n'avaient pas l'écriture, et ils avaient donc une tradition orale, d'un côté. Et puis de l'autre côté, the rudimentary means of representing basic ideas. N'est-ce pas? C'est-à-dire, une certaine manière de travailler sur des graphismes, qu'on appelait pictographie. Voilà. Alors, Je me suis rendu compte, vraiment avec des termes techniques, parce qu'en fait, j'étais pendant très longtemps, j'ai voulu pendant très longtemps être seulement un technicien de ces choses-là, qu'en fait, quand vous utilisez un terme pour classer quelque chose que vous, qui doit vous surprendre, bon, la première idée, c'est de diminuer, atténuer la surprise, pour ainsi dire. Ces dessins-là étaient donc quelque chose qu'on connaissait, des pictogrammes, n'est-ce pas ? Or, en fait, ces choses-là ont été longtemps appelées des hiéroglyphes. Et je me suis rendu compte, voilà, commencé à voyager un peu dans ma propre discipline, et je me suis rendu compte que quand on parlait de pictogrammes, en général, on avait affaire à des historiens de l'écriture d'inspiration positiviste, qui faisaient plutôt une histoire des techniques intellectuelles de l'humanité. Marcel Cohen, par exemple. Quelqu'un comme Dieringer. Et alors, très souvent, il y a une grosse idéologie dedans. Nous, nous sommes ceux qui ont une écriture. Eux sont ceux qui ne l'ont pas inventée. N'est-ce pas ? Donc, il y avait une certaine structuration du discours. Dieringer dit, par exemple, la voix de l'écriture est la voix du Christ et de Rome. N'est-ce pas ? Donc, c'était quand même assez, assez précis. J'ai commencé à regarder dans d'autres sortes de livres. Alors, des témoins, ou bien des gens qui écrivaient deux ou trois siècles avant. Alors, je me suis rendu compte, par exemple, qu'on dit souvent qu'on parle des Indiens sans foi, sans loi, sans roi, mais il y a toute une littérature du XVIe siècle où on parle des écritures des Indiens. Et ça scandalise personne. Et d'ailleurs, on dit, bah, bien sûr, les Indiens, ils ont des écritures. C'est comme les Égyptiens. Et à partir de là, vous prenez quelqu'un comme Michele Mercati, puisque nous sommes dans une ville où on se spécialise sur la Renaissance italienne. Il publie un traité, disons vers les années 80 du XVIe siècle, et vous avez une comparaison absolument presque routinière, désormais, des dessins qu'on trouvait en Amérique centrale avec les choses égyptiennes. Donc, quelque chose qui était complètement exclu dans une atmosphère positiviste était banal pour des gens du XVIe siècle. Là encore, probablement, il y avait quelque chose comme un objet qui échappait à la capture d'une pensée, vous voyez. J'ai aussi donc été chercher chez des témoins. Et j'ai trouvé toute une série de gens, parfois adorables, parfois tout à fait intéressants. J'ai étudié, par exemple, le premier anthropologue qui travaille pour le gouvernement américain, 1846-48. Il écrit un très gros ouvrage sur l'état actuel des Indiens d'Amérique, les Indiens des plaines surtout, les Indiens du Nord. Alors, nous fait échanger. D'un côté, ça a été une expérience formidable, c'est-à-dire que d'un côté, il répète des choses qui nous étonnent beaucoup. Par exemple, pour lui, les Indiens d'Amérique ne sont pas des primitifs. Il ne pense jamais une seconde que les Indiens d'Amérique soient des primitifs. Il dit, mais écoutez, dans la Bible, dans les Pentateuques, on voit bien qu'Adam et Ève savaient cultiver la terre, n'est-ce pas ? Or, beaucoup d'Indiens d'Amérique ne savent pas. Sont des nomades, des chasseurs-cueilleurs, à part la région du sud-ouest, etc. Donc que penser de ces gens ? Ces gens ne sont pas des primitifs, ce sont des gens déchus, qui ont perdu une connaissance divine, qui naturellement était là à partir des temps d'Adam. Or, il faut bien comprendre ces gens, parce que ce sont les gens qui ont orienté la législation sur les Indiens d'Amérique faite par les premiers gouvernements des États-Unis. Or, ces mêmes messieurs, donc, qui avaient en tête ces choses qui nous scandalisent tellement, étaient un homme qui s'était marié avec une Indienne et qui avait très longtemps vécu en territoire indien, comme commissaire du gouvernement, bien sûr, comme responsable politique. Il avait pour les Indiens un amour contrasté, on va dire. Il connaissait leur langue, il traduisait les mythes en forme de légendes pour enfants, il a fait des recueils pour les enfants comme ça, c'était donc marié avec une Indienne, il combattait l'alcoolisme, il voulait les protéger, mais naturellement c'était lui qui avait toujours raison, et les Indiens avaient toujours tort. Mais il a eu une intuition absolument extraordinaire. Quand je l'ai lu, j'étais très heureux. Il dit, les Indiens, en fait, ont des dessins qui traduisent certains mots clés qui apparaissent dans des poèmes qu'ils apprennent par cœur. Alors là, j'étais content. Là, j'étais content parce que je voyais que quelqu'un qui, bon, avait toute son idéologie, etc., mais avait eu là la bonne indication. En fait, il ne fallait pas chercher l'écriture chez les Indiens. Et il fallait aussi se rendre à l'idée qu'ils n'avaient pas une tradition orale. Ils avaient les deux à la fois, une tradition iconographique et orale. Et que ce qu'ils avaient inventé, c'était une certaine relation entre certaines images et certains mots. Voilà. Or, à partir de là, effectivement, bon, je pouvais abattre mes cartes. Depuis longtemps, progressivement, j'étais mécontent du fait qu'on dise que l'anthropologie est la science de la culture, par exemple, ou l'étude de la culture. Or, un mot comme culture ne restitue absolument pas la spécificité d'une situation de ce type. Hein? Donc, en général, dans le langage quotidien, et même les anthropologues, on fait souvent l'erreur de croire que tout fait mémoire dans une société. Et que donc, toute représentation qui se trouve se balader dans un corps social serait de la culture. Ben, peut-être pas, finalement. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut être beaucoup plus technique là-dessus et se dire, essayer d'identifier ce que pour les gens est mémorable et comment les gens rendent mémorables ces choses-là. Donc, il y aura des choses qui seront fragiles dans la vie quotidienne, ou dans la pensée même individuelle. Je rappelle que nous faisons du symbolisme toutes les nuits, quand nous nous endormons. Mais une chose très importante, beaucoup plus importante qu'une psychanalyse de la culture, à mon avis, c'est cette remarque de Freud, que finalement, le rêve ne dure pas. Vous ouvrez les yeux, et il s'agit de le reconstruire à chaque fois, d'en trouver une paraphrase, des paraphrases éventuellement plus ou moins précises. Mais en même temps, le symbolisme onirique est fragile, il disparaît, il ne tient pas. Donc il y a des symbolismes qui tiennent et des symbolismes qui ne tiennent pas. Effectivement, l'anthropologie est une manière de se demander comment certaines configurations symboliques tiennent aux yeux des gens. Voilà. D'une part, et cela nous oblige à critiquer les mots qu'on utilise. Je ne pense pas qu'il existe quelque chose de comparable à ce qu'on appelle pictogramme, en fait. Une fois qu'on va regarder un peu de près, un pictogramme tel qu'il est défini chez Dieringer, chez Cohen, ou je ne parle pas de Jean-Jacques Glasner qui a publié une histoire de l'écriture qui, par contre, est tout à fait malin là-dessus et qui restitue des choses telles que les anthropologues le voient maintenant. Mais en fait, si vous regardez derrière ce mot, ou derrière le mot culture, ou derrière le mot tradition orale, eh bien, si on accepte d'utiliser une méthode assez rapprochée, comme ça, un corps à corps avec un texte, et de prendre au sérieux sa double version orale et iconographique, en fait, vous trouvez devant des stratégies de l'ancrage du sens, si on peut les appeler comme ça, qui sont beaucoup plus compliqués que simplement de dire proto-écriture, pictogramme, tradition orale, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est de théoriser à partir de l'observation lente et détaillée d'un document, d'un témoignage, parfois d'un épisode, parfois d'une image.
Range d'ego long, transformai, triste, as, planche, wiki, dendeje, enderje, laisse, larme, laisse, dès qu'elle vasse. Quel large lunge, lunge, midi, entends tout, las, gouffe. Long vasca, vasquade, oh, flamme, plan démoli, sa planche, svatique. Zivai sévic, toi souffle, des dents, kai quoi, des mailles, fondroir, des deux.
La question de la chimère, c'est qu'en fait, quand vous ne vous reposez pas sur des codes pour transcrire le langage tel qu'il est parlé, vous avez affaire à des opérations mentales. Vous avez affaire à des contenus de texte où, pour mémoriser des points essentiels de ce poème, eh bien, il faut beaucoup s'éloigner de l'idée de l'ancienne idée du pictogramme. Un pictogramme, c'est un petit monsieur, une petite dame, un petit arbre, une petite maison derrière, un animal éventuellement, etc. Or, la mémorisation par pictogramme ne marche jamais comme ça, pratiquement jamais. En fait, ce que ces gens choisissent pour mémoriser, ce sont des images fragmentaires qui éveillent un certain travail d'interprétation mentale. C'est-à-dire que pour représenter un certain concept, on va provoquer la rencontre, par exemple, de fragments d'êtres différents. Par exemple, un poisson et un oiseau. Et cette rencontre dans un masque, par exemple, d'un poisson et d'un oiseau, traduira un nom propre. Donc, avant que, que surgisse une représentation complète de ce qu'il faut mémoriser, j'utilise ce que j'appelle la voix chimérique, c'est-à-dire une image énigmatique qui a une relation saillante, comme ça, qui devient une image vive, une image singulière, hein, que je vais distinguer dans une liste, par exemple, de noms propres. Quand je dois mémoriser, j'ai besoin de deux choses. D'un ordre des choses à mémoriser. Hein, ça commence à très, très souvent, les pictogrammes supposent un travail d'organisation linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un sens de lecture. Il n'y a jamais de série de pictogrammes sans un sens de lecture. Vous voyez ? Donc déjà, tout de suite, il y a une mise en place d'une organisation mentale, une taxonomie, comme ça. Hein ? Le village des singes vient avant le village des serpents, lequel précède le village rouge, par exemple. Hein ? C'est une citation, un chant chamanique. Je pars dans l'autre monde, je traverse la lumière du soleil, je me retrouve dans un au-delà habité par des esprits, et il faut que j'explore tous ces lieux du cosmos pour à la recherche, par exemple, d'un principe spirituel d'une âme perdue. Donc c'est très important pour moi de ne pas perdre le chemin. L'idée la plus élémentaire que je dois avoir pour suivre ce voyage, cet itinéraire, est qu'il y a une séquence ordonnée. Or, ces séquences ordonnées de village, en même temps, une fois que j'ai la séquence ordonnée, j'ai un problème ultérieur, il ne faut pas que je confonde les termes de ces villages. Il faut singulariser l'espace où je suis. Donc il me faut d'un côté un ordre mnémonique et de l'autre côté une saillance à chaque fois. Or vous savez, ceux d'entre vous qui ont étudié par exemple les techniques de la Renaissance, le travail de Francis Yates, il y a un traité, le Ad Erenium du pseudo-Cicéron, qui raconte que pour mettre les choses en mémoire, le bon plaideur, puisque c'est dans le monde latin, l'art de la mémoire est surtout pratiqué par les orateurs, eh bien, ces instructions sont, tu dois par exemple traiter d'un assassinat. Alors cet assassinat, c'est l'assassinat d'un vieux monsieur. Ce vieux monsieur était quelqu'un d'important au Sénat. Alors pour bien mémoriser ça, tu mets les choses à apprendre sur un espace que tu connais déjà. Tu penses à une maison, chez toi, par exemple. Tu prends la porte, le couloir. Première pièce à droite, c'est la cuisine. Eh bien, dans la cuisine, tu vas mettre une scène d'assassinat. Ensuite, dans la chambre à gauche, tu mettras une image du monsieur assassiné. Et tout de suite après la porte, une bonne vision du Sénat avec une position centrale. Et à partir de là, ben, quand il faudra parler, mentalement, tu vas refaire cet itinéraire. Et donc, tu sauras toujours que c'est bien d'un assassinat qu'on parle, c'est bien de ce monsieur-là qu'on parle, et c'est bien du monsieur si important que ça au Sénat actuellement dont on parle. Or, il y a là une espèce d'organisation mentale qui n'a naturellement rien à voir avec une écriture. C'est une série de tableaux. Sauf que ces tableaux sont d'abord et avant tout des tableaux mentaux, en quelque sorte. Hein. Et ces tableaux, ils ne sont pas mentaux au sens qu'ils traversent mon esprit. Je les fixe dans mon esprit. Hein. Je travaille ça. J'oriente mon imagination. Donc, je suis en train de faire deux choses. Je suis un homme, donc je fais du travail inférentiel. Et en même temps, j'éduque, je fais travailler mon imagination. Donc je mets ensemble, ce sont les deux bras de la mémoire, hein, pour codifier quelque chose. Il faut de la taxonomie, il faut de l'organisation. Et pour évoquer quelque chose, il faut une image saillante, forte, poétique, parfois excitante. Hein. Et donc il faut que je fasse travailler à la fois l'inférence et l'imagination. Eh bien, moi, j'ai essayé de voir comment l'inférence et l'imagination fonctionnent dans des cultures qui sont pas, qui ne coïncident pas avec notre tradition. Et donc, j'ai fait le pari qu'il existe, il n'a pas existé un seul art de la mémoire, celui dont on dit que c'est Simonide de Séos qui l'a inventé, etc. Mais on peut étudier les cultures qu'on a appelées orales comme des cultures qui cultivent ou qui ont inventé les arts de la mémoire.
Tifa, tufa, tufa, ola, ha, oa, ha, ola, oha, ola, hofa, ofa, vasa, ote, anse, demarji, conflisso, pfff, de brus, olikai, souza, ousk, monstre, monstre, vaste, dégage, gadje, dele, angel, dion, lion, de, you, de, zirze, gurit, zi, de, zirvai, reglir, reglir, vasca, 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 ho, tifa, tifa, zzzz.
L'objet de l'anthropologie, en principe, serait la variation culturelle, n'est-ce pas? Les cultures ne sont pas les mêmes nous sommes censés travailler dans un horizon qu'on a tendance à appeler relativiste. Hein, le relativisme culturel, la culture des Indiens n'est pas la nôtre, etc. Or, en fait, le mot variation contient un grand nombre de possibilités. En fait, on peut varier de façon différente. On peut varier de façon différente. Et donc, j'étais insatisfait de l'idée ils ne sont pas comme nous, donc ils ont une pensée différente, une tradition différente, une manière différente. Or, la première remarque qui m'est restée dans l'esprit pendant longtemps, c'est que quand vous dites que quelque chose est différent, vous savez ce que cette chose n'est pas. Mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Hein? C'est-à-dire que vous donnez toujours une espèce de définition négative. Le vert n'est pas rouge, le rouge n'est pas noir, le noir n'est pas blanc, etc. Mais en fait, bon, qu'est-ce que ça veut dire d'être différent? Hein? Il s'était agi, par exemple, pour toutes ces histoires de pictogrammes et de chants chamaniques, de passer d'une définition négative, tradition orale. Alors, ça n'a pas l'air d'une définition négative, puisqu'on dit, bon, ben, la tradition écrite, c'est quand il y a l'écriture, la tradition orale, c'est quand il y a la parole. Il y a une petite nuance, c'est que nous savons, ou croyons savoir, comment les traditions écrites fonctionnent, nous ne savons pas du tout comment fonctionnent les traditions orales. Donc quand on dit que les traditions sont orales, on veut dire que l'écriture n'est pas utilisée. Mais nous ne savons pas ce qui est utilisé. Voilà. Alors, voici donc une considération préliminaire sur les différences culturelles. Elle fonctionne de façon binaire, comme ça. Et nous, très souvent, on est satisfait du fait de savoir que, comment dire, on sait ce que ces cultures ne sont pas, mais on ne sait pas ce qu'elles sont. Hein? Et je pense d'ailleurs très sérieusement qu'il y a même une vraie question politique dans cette affaire. Enfin, je pense que nous sommes victimes là d'une stéréotypisation de la différence. Donc j'ai voulu réfléchir sur le concept de variation. Et bon, ça c'est une chose effectivement que j'ai utilisée comme ça. Et j'ai pris des exemples de procédés de pensée chez les musiciens parce qu'il me semble que c'est très utile. En fait, il y a une manière de varier qui consiste, dont le modèle sont les variations Goldberg. Alors, je ne vous chante pas le thème, mais il est très simple, finalement. Degrés assez rapprochés sont des contrastes immenses, donc il est très mémorable. Et puis, en fait, le jeu, c'est de construire autour de ce thème une structure comme celle d'un cristal de roche, comme celle d'un flocon de neige vu au microscope, ou d'un fractal, si vous voulez, un mot chic. C'est-à-dire que vous allez réentendre ce thème à chaque variation. Donc, ce seront des valeurs mélodiques ou des valeurs rythmiques qui changent. Par exemple, je vais prendre des notes noires et faire des notes blanches. Mais je retrouverai toujours quelque part un patron, comme ça. Et donc, j'ai quelque chose qui tourne autour d'un centre. Et donc, la variation, c'est une variation d'une seule chose, en quelque sorte. Or, j'ai utilisé parfois ça dans mes séminaires pour expliquer ce que c'est que l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de prendre un point, comme si c'était l'origine de tout ce qui est formulable dans une langue de son, et effectivement, pour une musique que j'adore. Mais en même temps, du point de vue comme ça du modèle, c'est une bonne manière de voir. Je pense qu'il y a là quelque chose comme un centre immobile. Et je me suis rendu compte qu'il y a dans la modernité une pensée de la variation qui est complètement différente et qui peut nous intéresser, nous les anthropologues, qui parfois sommes embarrassés avec cette idée de différence culturelle, précisément parce qu'elle est binaire. Elle ne nous permet pas de restituer la complexité de la chose. Et effectivement, l'idée ce sont les variations plus 14, je crois, si je me souviens bien, pour piano. L'idée, c'est d'Anton Webern, lequel, comment dire, écrit une série de variations pour piano, où, à partir d'un patron donné, il écrit une première variation, et là, nous sommes dans la règle du jeu, mais le jeu change radicalement lorsqu'à partir de la troisième variation, je la regarde, je peux la lire, ce n'est pas une variation du thème, c'est une variation de la première variation. Et je ferai la même chose avec la quatrième, qui sera une variation de la troisième variation. Or, qu'est-ce que ça fait, ça, du point de vue de la forme sonore? Qu'est-ce qui m'importe, finalement? Moi, je, tant que travaillant en France, mais même aussi de façon assez directe, étant l'élève de M. Lévi-Strauss, je me situe dans une pensée morphologique, dans une pensée de la forme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai un déplacement progressif de centre de gravitation de cette musique. Vous voyez? C'est-à-dire que au lieu d'avoir tout le temps une espèce de grand cercle qui se construit autour d'un point, j'ai un point qui se déplace de plus en plus vers une espèce de multiplication des centres, en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose comme ça chez Wittgenstein, ça s'appelle les ressemblances de famille. Hein, comment dire, je suis chauve et très intelligent. Naturellement, j'espère que mon fils va être très intelligent et avec une chevelure extraordinaire. En fait, parfois, il peut être chauve comme moi, mais aussi très bête. Alors, à partir de là, c'est-à-dire, j'ai une séquence de gens qui ne se ressemblent pas pour la même raison. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je me retrouve avec une série de variations dont le centre, c'est-à-dire le point de comparaison, varie. N'est-ce pas? Alors, Wittgenstein appelle ça les ressemblances de famille. Mais, or, pourquoi j'ai développé tout ça? Parce qu'en tant qu'anthropologue, bon, moi je crois que la variation culturelle est faite beaucoup plus comme Webern l'a pensé que suivant un modèle comme celui des variations Goldberg. C'est-à-dire que, en fait, les cultures ont une manière complexe de varier. Et que pour restituer la différence culturelle, il faut sortir d'une pensée binaire. C'est un peu ça, l'essentiel de l'affaire. L'essentiel de l'affaire, vous voyez? C'est-à-dire que... Et pour moi, la musique est une... Bon, je sais pas. La musique a quand même une grande tradition comme science abstraite, comme science des relations. N'est-ce pas? Et bon, Lévi-Strauss a été, naturellement, l'a fait d'une manière formidable dans les mythologiques. Mais je pense qu'on peut aussi reprendre un peu la balle et essayer de reprendre des modèles de théorie musicale pour penser des choses qui sont éventuellement plus complexes que d'autres. Et on peut donc se laisser orienter par une pensée de la forme.
Différence et répétition.
Le pépère de mon grand-père, pour honorer Dieu, sortait de chez lui très tôt le matin, aux premières lueurs de l'aube. Il se rendait dans un bois en suivant un chemin qu'il était le seul à connaître, jusqu'à un pré situé au pied d'une colline. Arrivé près d'une source, il se mettait devant un grand chêne et chantait en hébreu une prière solennelle, ancienne et secrète. Son fils, le père de mon père, sortait lui aussi très tôt le matin et se rendait au bois en suivant le chemin que son père lui avait fait connaître. Mais lui, qui avait le souffle court et l'esprit préoccupé, il s'arrêtait avant le souffle court et l'esprit. Il avait trouvé un beau bouleau près d'un ruisseau devant lequel il chantait la prière en hébreu qu'il avait apprise enfant. C'était sa manière d'honorer Dieu. Son fils aîné, mon père, avait moins de mémoire, était moins religieux et avait une santé plus fragile que son père. Son fils aîné, mon père, avait moins de mémoire, était moins religieux et avait une santé plus fragile que son père. Aussi ne se levait-il pas aussitôt que son père et son arrière-grand-père. Il allait juste à côté de chez lui, dans un jardin où il avait planté un petit arbre. Il allait juste à côté de chez lui. Il murmurait à jardin où il avait planté un petit arbre. Souvent imprécis et plein de fautes, pour honorer Dieu. Moi, qui n'ai plus ni mémoire.
Moi, qui n'ai plus
temps pour
ni mémoire, ni temps pour prier.
J'ai oublié où se trouvait le bois de mon arrière-grand-père. Je ne sais plus rien des ruisseaux ou des sources cachées, et je ne sais plus réciter aucune prière.
Je ne sais plus rien des ruisseaux ou des sources cachées.
Mais je me lève tôt.
Et je ne sais plus réciter aucune prière.
Et je raconte cette histoire à ceux qu'ils veulent bien m'écouter.
Mais je me lève tôt.
C'est ma manière à moi d'honorer Dieu.
Et je raconte cette histoire à ceux qui veulent bien m'écouter.
Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Quand plus tard le père de mon père se trouva confronté à la même tâche, il se rendit à ce même endroit dans la forêt et dit « Nous ne savons plus allumer le feu ». Mais nous savons encore dire la prière. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisa. Plus tard, mon père...
Rachel, la femme adultère.
L'Espagnol.
Lui aussi alla dans la forêt et dit...
Le joueur de tennis.
Nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne connaissons plus les mystères de la prière. Mais nous connaissons encore l'endroit précis dans la forêt où cela se passait. Et cela doit suffire. Et ce fut suffisant.
Maman somnambule, mon papa fait rien.
Monsieur, je cherche quelqu'un qui s'appelle Simon.
Il est en ville.
Et une qui s'appelle Rachel. Rachel.
Madame est absente, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils vous connaissent?
Ils vont revenir bientôt.
Est-ce qu'ils vous connaissent? Qui vous connaissent. Vous devriez dire monsieur ou madame alors, pas les prénoms. Nous ne sommes pas des personnages de roman.
Peut-être que si. On m'a dit qu'ils avaient une histoire à vendre.
Monsieur, vous achetez des histoires.
Hercule, c'est exact. Monsieur.
Maman somnambule, mon papa fait rien.
Monsieur.
Faire face à la même tâche. Je suis resté à la maison et j'ai dit : nous ne savons plus allumer le feu. Nous ne savons plus dire les prières. Nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt. Mais nous savons encore raconter l'histoire.
Pourquoi j'ai choisi ce texte pour présenter une tentative d'étudier les procédés de la mémoire. Bon, il y a une beauté du texte, hein. Il y a une beauté du texte. Dans un conte qui marche, il doit toujours y avoir quelque chose d'indécis ou de presque incompréhensible. Et effectivement, dans cette narration, il y a quelque chose de très intrigant qui fait entrer dans une modalité narrative. Et puis à chaque fois, on vous dit qu'on ne vous parle pas d'une histoire, mais qu'on vous parle d'une prière. Donc c'est comme si c'était l'histoire d'une prière dont la mémoire se perd d'une génération à l'autre. Alors le narrateur vous dit, j'ai joué le conteur aussi, naturellement, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit la vie est dure, les mots sont composés en fait de souffle, rien ne tient, tout se perd, tout le monde meurt. Il y a une espèce de sentiment comme ça de perte progressive. Et puis en même temps, on vous dit... il y a quelque chose qui persiste aussi. Et que c'est tout le temps là. Et alors, qu'est-ce qui persiste? Parce que le narrateur dit, en fait, c'est l'histoire qui persiste. Parce que moi, je ne sais plus la prière. Mais je vous raconte cette histoire. Donc du coup, on a tendance à penser que c'est une espèce de lien établi par la narration entre celui qui parle ou celle qui parle et celui qui écoute ou celle qui écoute, qui suscite une sorte d'attente, comme ça, on est à deux, et on l'histoire, on attend un dénouement. On est pris par le fil de l'histoire, comment dire. En fait, c'est pas du tout ça qui... Le narrateur vous dit ça, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que... C'est une autre forme de parole qui persiste. Le grand-père, il savait la prière. La prière, ça, c'est une parole très orientée. On ne peut pas tellement changer des détails à une prière, quand même. N'est-ce pas? Les prières, on les apprenne par cœur. Les prières, surtout les prières, elles sont prises dans un lien tout à fait différent. Vous invoquez, vous demandez, vous cherchez la paix dans une contemplation, etc. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui était très intriguant dans ce texte, c'est pour ça que pour moi c'est comme un cristal, c'est qu'il mêle deux grandes branches des traditions orales, la parole rituelle, la parole efficace, la parole qui essaye d'influencer, et la parole narrative, l'une dans l'autre. Et alors, du coup, est-ce que c'est la narration qui persiste? En fait, non. Si la narration est une prière, c'est l'honneur rendu à Dieu qui persiste. Parce qu'au fond de l'histoire, on ne sait plus rien. Et alors, on joue sur ce... Mais on pourrait très très bien dire le contraire. La prière, moi je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus du tout la prière. Puis d'ailleurs, je ne crois plus en Dieu et tout. Mais je sais l'histoire de celui qui priait, et de son fils, et du fils de son fils, et du fils de son fils. Alors, c'était ça qui m'intéressait. Il me semblait que, dans un seul texte, par une sorte de merveilleuse invention narrative, les deux horizons de la mémoire, c'est-à-dire la parole efficace, la parole qui influence, la parole qui veut transformer, la parole rituelle, pour tout dire, et la narration était mise dans une sorte de relation paradoxale. Si je compte, alors je prie. Si je prie, alors je compte. Hein? Et ça m'a paru vraiment la ligne d'horizon de cette recherche.
Premier texte auquel j'ai pensé lisant le commencement, c'est Benjamin. C'est un texte de Benjamin. C'est le texte qui s'appelle anciennement, alors on va voir la variation, mais qui s'appelle aujourd'hui le narrateur et qui autrefois était traduit par le conteur. Et tout de suite se posait pour moi, déjà se pose dans ce récit-là, la question qu'est-ce qu'un conteur ou qu'est-ce qu'un narrateur? Le narrateur, on le lit souvent plus à la question de l'écriture, et le conteur à la question de l'oralité. Et Benjamin commence à réfléchir là-dessus et invoque un certain nombre de conteurs qu'il aime beaucoup, et entre autres, pense un texte sur le grand écrivain russe qui s'appelle Nicolas Leskov, et il convoque un auteur dont j'ai relu un texte absolument sublime qui s'appelle Hebel, un écrivain allemand du début 19e, fin 18e, début 19e. Et il dit, je reviens, il parlait de Carlo Severi, parlait de cette forme de perfection de ce récit-là, et Benjamin parle de cette perfection. Il dit pourquoi c'est parfait. Il dit c'est parfait parce que un texte fait tenir ensemble ce qui pourrait a priori ne pas tenir ensemble, c'est-à-dire effectivement la question du sacré, lui ce qu'il appelle le messianisme ou l'histoire du salut, et puis le profane, le quotidien le plus élémentaire. Et que ces deux choses-là finissent dans la littérature qui contiendrait une certaine forme de perfection à se rejoindre. Et réfléchissant là-dessus, je pose des questions, vous commentez. J'en viens à penser à Foucault, parce que je me suis dit à un moment donné, dans une narration ou dans un conteur, fameux texte de Foucault qui s'appelle L'auteur, à un moment donné où Foucault fait une réflexion sur Beckett, Beckett dit quelqu'un parle. Et au bout du compte, il reste à la fin quand même, qu'on le veuille ou non, un auteur. Puisque quelqu'un dit, quelqu'un parle. Même si on ne sait plus que qui parle ou que quelqu'un parle, quelqu'un dit, quelqu'un parle.
Ce sont des choses que vous lisez dans mon livre qui ne sont pas accomplies. C'est-à-dire que j'y travaille maintenant, en effet. Moi, je m'en suis servi de cette histoire dans le livre, de ces questionnements à propos du fait de celui qui, du conteur et de celui qui énonce une parole rituelle. Ça, ça m'a intéressé parce qu'en effet, on en parlait à l'instant, avec un narrateur, en fait, plus que ce qu'il dit ou ce que le style de son texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la narration est un lien. C'est-à-dire établit un lien entre un conteur et celui ou celle qui écoute. Et c'est un lien de complicité. On peut imaginer que quand je raconte une fable, par exemple, à mon fils, ben, on finisse par voir ensemble la tour d'où le prince attend la princesse, par exemple. Et d'ailleurs, souvent, les fables disent bah, « Le prince, il était à la fenêtre, il attendait. La princesse devait venir. » Il y a toujours ces situations très visuelles comme ça. Et en fait, on s'associe. Hein. Celui qui raconte bah, est en train de voir, pour ainsi dire, ou d'imaginer de voir, ou de donner une chance de voir à son interlocuteur. Or, pour la parole rituelle, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce qu'en fait, vous voyez, une histoire, c'est quelque chose que je peux raconter n'importe comment, tout le temps, et à quiconque. Et les histoires traversent comme ça les communautés, n'est-ce pas ? C'est comme les rumeurs. Or, la parole rituelle est beaucoup plus entravée, en quelque sorte. Hein, et on ne peut pas tout dire n'importe comment et n'importe où. Il y a quelque chose comme des conditions d'énonciation spécifiques. Hein. Or, souvent, ces conditions d'énonciation ont intéressé les artistes de la modernité du XXe siècle. Quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, je vous le disais, c'est en fait pas du tout un anthropologue. C'est un théoricien du théâtre qui s'appelle Grotowski. Alors ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est un Polonais. Il a beaucoup, il a fondé une espèce de communauté en Toscane qui a duré 25-30 ans, etc. Un peu initiatique, c'était difficile d'y aller, etc. Il faisait plus de spectacles, il éduquait surtout des acteurs et tout. Et puis, à un moment donné, je ne sais, j'ignore toujours quel a été le professeur du Collège de France qui a eu l'idée lumineuse de prendre cet homme déjà très âgé et plutôt malade et de le nommer à la chaire d'anthropologie théâtrale du Collège de France. Bon, ça a duré 2-3 ans. Et Grotowski venait à Paris de temps à autre, parce qu'il ne venait pas souvent, il ne faisait pas du tout son cours une fois par semaine comme il faudrait le faire, et d'autant plus qu'il avait un énorme public. Donc il ne faisait pas du tout ses séminaires, ses cours du Collège de France, place Marcelin Berthelot à l'époque, il le tenait au Théâtre de l'Odéon. Alors la porte était ouverte, et à partir de 8 heures, on y allait, comme ça. Et il y avait ce petit monsieur assis sur une chaise sur la chaîne qui parlait des heures et des heures entières, comme ça. Et j'ai été complètement fasciné parce qu'il était d'une technicité extraordinaire sur l'action rituelle, sur la mise en place, sur comment on dit les choses, sur comment on fait des gestes pour les accompagner, sur comment on signifie la présence d'un acteur ou son absence. Par exemple, une chose qu'il disait absolument extraordinaire, que ça a l'air complètement élémentaire, c'est que la première chose qu'on dit à un acteur, c'est de choisir un point dans l'espace et s'y tenir avec le regard. Donc on ne peut pas dire « aux vieillesse ennemie » comme ça, parce que les gens tout simplement n'entendent pas. Ce qu'il faut faire, c'est avoir quelqu'un en face de soi. Et ce point-là doit rester stable. Alors du coup, si l'acteur s'adresse à quelqu'un, Eh bien, on a l'image d'une communication. C'est-à-dire que je peux me mettre à la place de ce point, d'une certaine manière, et ça devient une sorte d'interlocution. Alors, c'était ce genre de technicité qui, moi, me fascinait profondément, et profondément fasciné, parce que ça l'amenait à avoir un regard, justement, à la fois technique et ironique, sur des choses comme le sacré, etc., le rituel. Alors, il disait, par exemple, « Vous savez, moi, ce n'est pas l'athéisme qui m'intéresse, ce serait plutôt le sacrilège », il disait. C'est-à-dire, alors, bon, il était un peu un vieux monsieur irrespectueux, bien sûr, mais en même temps, il avait aussi cette idée qu'on peut capter quelque chose comme une efficacité de la présence, de la parole, de l'action rituelle, dans le domaine du sacré, pour l'utiliser à des fins artistiques. Voilà. Pour l'utiliser à des fins artistiques. Or, effectivement, ça m'a fait réfléchir sur des questions qui peuvent paraître très éloignées, c'est-à-dire je voyais finalement chez mes chamans amérindiens aussi un souci extrême qu'on prenait pour dire certains mots dans certaines occasions, dans certaines positions. Par exemple, il y a des choses qu'il faut dire, il faut... Voilà, et ça m'avait fait beaucoup penser, c'était ce qui m'était revenu lorsque Gortowski disait ces choses-là, c'est-à-dire que mon chaman disait, moi, le chant, il faut le chanter vers l'Est. Donc il faut prendre l'Est et puis dire des choses à l'Est. Alors, ou bien vous n'utilisez pas ce genre de choses, ou bien vous dites, ils ont une pensée différente, voilà, ils ne sont pas comme nous, ce genre de choses, ou bien vous essayez d'imaginer une situation d'énonciation qui prenne au sérieux ça. Hein? Donc ce n'est pas un commentaire à une parole qui serait un poème, etc. Non, c'est une parole énoncée vers l'Est. Donc il doit y avoir une raison, une présence de la parole pour cela, etc. Alors c'est cet aspect qui m'intéresse, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire que la mémoire d'une culture est faite d'opérations taxonomiques, d'inférences, d'imagination, c'est des opérations mentales, etc. C'est vrai que c'est abstrait, c'est vrai, ces gens ont un exercice vertigineux de la pensée abstraite. Mais en même temps, c'est toujours ancré sur des conditions d'énonciation extrêmement spécifique. Donc vous avez aussi une mémoire épisodique de l'énonciation. C'est là, de cette manière-là, qu'on peut énoncer ce savoir-là. C'est un peu ce qui prend la place du livre, en quelque sorte. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est le lieu de la parole. Eh bien, il est fixé. Il n'est pas diffus. Il est orienté. Et donc, on a là quelque chose comme un exercice orienté de l'énonciation. Voilà. Donc, c'est pour ça que... vous m'avez dit que je peux être technique aussi. Effectivement, on commence à comprendre une littérature chamanique si on se rend compte que toutes ces conditions d'énonciation-là sont une manière de définir le locuteur. Alors, vous prenez le final de l'homme nu de Lévi-Strauss sur la mythologie et la parole rituelle. Il vous dira que la mythologie contient les grandes opérations de pensée, et puis l'énonciation rituelle, ça, il le dit comme ça, il dit ça, c'est des mots à la douzaine. Des mots à la douzaine, c'est-à-dire, effectivement, ça répète beaucoup, etc., etc. Or, effectivement, c'est très ennuyeux si on le lit comme si c'était... du Balzac ou du Proust. Mais il faut imaginer quand même que c'est une parole, hein, et que cette parole, elle a sa propre musique interne, pour ainsi dire. Hein. Eh bien, là, je ne suis pas d'accord avec Lévi-Strauss. Les mots à la douzaine, en réalité, ne constituent pas l'aspect intéressant de cette littérature. L'aspect intéressant de cette littérature est transféré sur la métamorphose de l'identité du locuteur. En fait, vous avez en face de vous quelqu'un qui, en modulant la parole, vous dit « Maintenant, je suis un jaguar. Maintenant, je suis devenu un arbre de la forêt, maintenant, etc. C'est-à-dire, il joue sur une métamorphose qui est orientée par ses prises de parole. Donc, d'une certaine manière, il faut l'imaginer comme un danseur ou comme un acteur, en partie, hein. C'est-à-dire comme quelqu'un qui accueille sur soi une parole dont il est indépendant, ou relativement indépendant, vous voyez, hein. C'est-à-dire que c'est une expérience, en fait, que nous connaissons très bien, hein. Il suffit que nous entrons dans un théâtre et que nous voyons un acteur nous dire « Ah, l'étrange peine », par exemple, de Corneille, etc. C'est de qui, cette étrange peine ? N'est-ce pas ? Alors, l'acteur vous dira... On a vu ça dans une interview merveilleuse de Michel Bouquet sur le film sur Mitterrand. Il disait, mais un acteur, c'est rien. Moi, j'ai tellement étudié Mitterrand que je suis devenu Mitterrand. Alors, la peine qu'il voit quand il va mourir, là, qu'on voit dans le film connu que j'ai vu récemment, ben, c'est celle de Mitterrand ou c'est celle de Bouquet ? En fait, c'est ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas ? On a quelque chose comme une... Nous sommes invités à contempler cette mort qui vient ou cette étrange peine. Et nous la contemplons à travers le personnage et à travers l'acteur. Mais attention, il n'y a pratiquement jamais de confusion. Si par hasard on se disait c'est Michel Bouquet qui a mal à l'estomac, ce serait un désastre pour la fiction, n'est-ce pas ? Comme ce serait un désastre pour la fiction de croire très sérieusement que c'est Monsieur Mitterrand, n'est-ce pas ? Or, dans la fiction chamanique, les choses sont un peu plus compliquées. C'est-à-dire, les chamans jouent non pas sur l'alternance de rôles différents, mais sur l'accumulation de rôles. C'est-à-dire que quand ils se mettent à chanter comme des oiseaux ou à crier comme des jaguars, et ils ont l'objectif d'acquérir progressivement ce qu'on pourrait appeler une identité complexe, c'est-à-dire une identité non pas infiniment, mais ambiguë de façon indéterminée. Vous voyez ? C'est-à-dire une présence telle qui induit la croyance parce qu'elle arrive à poser des questions parfaitement indécidables. Est-ce qu'il est devenu vraiment un jaguar ? Si je dis oui, c'est un danger. Si je dis non, c'est un monsieur avec un chapeau sur la tête. Donc il faut éviter de dire aussi bien oui que non. N'est-ce pas ? Donc c'est une forme de théâtre, si vous voulez le prendre comme ça. Mais c'est un théâtre qui inspire une autre relation. La relation que j'ai avec le narrateur est celle d'une complicité immédiate. La relation que j'ai avec un acteur est celle d'une alternance sans équivoque. Je joue le jeu, d'accord. Tu es l'empereur Tamerlan, par exemple, dans l'exemple de Marlowe que je donne dans le livre. Donc l'acteur dit « ma peau est ensorcelée ». Alors c'est la peau de l'acteur ou la peau de Tamerlan. Bon, mais c'est clair. Je suis entré dans un théâtre, il y a une scène, tout est précis. Le lien que le chaman établit avec moi est un lien où je mélange ces connotations d'identité. Et du coup, j'ai tendance à penser que c'est un lien qui induit la croyance. C'est un lien qui est établi par le doute. Mais le doute devient le mot d'un lien, le nom d'un lien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si j'ai en face de moi quelqu'un que je ne peux pas déterminer, en fait, ça devient une chimère. Voilà, ça devient une image qui me fait travailler, ça devient quelque chose comme un énigme, un peu comme le conte de Novalis, c'est-à-dire un récit où il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, toujours, qui est véhiculé à l'intérieur de ça, et qui est une espèce de point neutre, où je vais me retrouver ou pas. Mais c'est fait comme ça. La morphologie est celle-là. Hein? Donc, au fond, le chamanisme fonctionne un peu comme ça. Donc, comme quoi, d'écouter les paroles de Grotowski, qui a d'ailleurs jamais fait le livre, hein, ça existe sur les cassettes, hein, vendues à peu de prix par le Collège de France, ces leçons, eh bien, c'était utile. C'était utile, parce qu'en réalité, ça permettait de focaliser sur le personnage de l'énonciateur après avoir étudié le texte. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de plus dans les chants chamaniques. Et ça, c'était vu par quelqu'un qui, par exemple, nous commentait longuement Helen Weigel dans le cercle de Créa de Brecht et l'opposait à ce qu'il avait fait, lui, sur le prince Constant de Kleist, etc. Donc, bon, c'est là pour essayer de dire cela. C'est-à-dire que l'anthropologie devient intéressante ou plus intéressante quand elle accepte le pari d'être plus un projet de relation entre disciplines qu'une discipline seulement enfermée dans ses savoirs, dans sa spécialisation parfois locale qui décourage tellement.
C'était un entretien avec Carlo Severi, réalisé à la librairie Le Livre à Tours, par Laurent Évrard. Carlo Severi, qui vient de publier aux éditions Estetica Le principe de la chimère, une anthropologie de la mémoire. Générique, Fred Fritz. Extrait de la symphonie numéro 4 d'Isidore Isou et d'Hélas pour moi de Jean-Luc Godard. Retrouvez nos émissions sur internet www.audioblog.arteradio.com/a-bou-2-souffle.